C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Nathalie Normando, bonjour.
Bonjour, Louis.
Et Luc Ferrandaise, bonjour.
Bonjour à vous deux.
Alors, je ne sais pas si vous avez, comme moi, écouté le discours inaugural ou le discours d'ouverture, plutôt, de François Legault hier, mais moi, j'avais l'impression d'avoir assisté à un condensé d'une heure et quart de la dernière campagne électorale. Je me disais, s'ils avaient fait ça au début de la dernière campagne, on sauvait 35 jours.
C'est à mon résumé.
C'est encore ça. Mais c'est vrai, j'ai eu le même réflexe, moi. Je me suis dit, tu sais, il n'y a rien de nouveau, là. Ah, il y a des petites choses,
Ouais, comme quoi?
Ben, en environnement, il est un peu plus fin que d'habitude. Il a mentionné le fait que d'habiter n'importe où a un impact sur l'environnement, qu'il fallait resserrer nos villes et nos villages. C'était intéressant. Il a parlé aussi de la protection des aires protégées. Il a parlé de l'eau. Mais la base de son discours sur l'environnement reste toujours un discours profondément utilitariste. C'est-à-dire que lui, il veut faire du développement économique, puis là, il a trouvé une nouvelle manière de faire, puis ça s'appelle l'environnement. Puis il réinterprète tous les thèmes de l'environnement en fonction de ça. Mm. Et c'est une traverse, il traversit l'environnement complètement. Comme par exemple, quand il dit que, ben, tu sais, lui, ce qu'il voit là-dedans, c'est une occasion de vendre de l'électricité aux États-Unis, une occasion.
Mais ça a toujours été son discours de dire.
Ben oui, c'est
de,
ça.
De faire de la lutte au changement climatique une opportunité d'affaires, de créer de la richesse.
C'est exactement
autour de ça.
C'est exactement ça. Quand il dit qu'il y a 100 TWh, on va être obligé, pour des raisons d'environnement, de mettre 100 TWh de ce qui était en pétrole. Ce n'est pas vrai. Y a-t-il quelqu'un qui écoute, là, au bureau du premier ministre? C'est faux. C'est faux. Vous introduisez les Québécois, vous les manipulez. Là-dedans, il y a au moins un 40 TWh qui est pour du développement industriel supplémentaire avant que la transition énergétique ou sans que la transition énergétique soit mise en cause. Puis d'ailleurs, c'est commencé depuis longtemps. Les 40 TWh qu'on avait de surplus puis qui est utilisé pour attirer les centres de données puis les crypto-monnaies, ce n'était pas de la transition énergétique. C'est des affaires. Mmh. Maintenant, ce qui est bien quand même pour ça, c'est qu'ils ont décidé qu'ils n'en feraient plus de crypto-monnaie. Ça, c'est une bonne décision. Bravo pour cette décision-là, mais c'est largement insuffisant. Le Québec n'a pas l'intention d'atteindre des cibles. C'est les cibles qui se sont fixées. Il l'avoue candidement. Il va peut-être atteindre 60% des cibles. Or, les cibles sont elles-mêmes pas à la hauteur de ce qui est demandé par le GIEC. Il l'avoue candidement. Puis après ça, quand tu regardes comment ils vont atteindre ces cibles-là, c'est avec des moyens mis en œuvre après 2035. Fait arrêtez de nous bourrer, arrêtez de parler d'environnement, ça marche pas. Parlez de développement économique, c'est ça votre force. C'est de ça que vous voulez parler. Parlez de développement économique, mais mêlez pas l'environnement là-dedans. Mmh.
Nathalie.
Ben Luc, tu reproches au premier ministre d'avoir une vision utilitariste. Moi, je pense qu'il te trouvera un peu trop dogmatique à son goût. Là, je te fais
sans
un clin d'œil en te disant
sans
ça.
Doute.
Oui, sans doute. Parce que, en fait, il n'y a rien inventé. Concilier environnement et économie, c'est une de deux pierres d'assises de la loi sur le développement durable. Lorsqu'on fait du développement durable, on veut faire quoi? On veut concilier économie, environnement et acceptabilité sociale. Alors, dans ce sens-là, il n'y a rien inventé. Moi, ce discours, tout comme vous deux, j'ai trouvé que c'est un condensé des engagements qui le prix durant la dernière campagne électorale. En fait, on peut dire qu'il y a de la constance dans le message. Fierté, identité, économie, là, c'est encore les trois grands thèmes qui sont revenus. L'éducation, la priorité des priorités. Et là, moi, il m'a interpellée lorsqu'il a affirmé que la priorité, l'éducation, c'était le plus grand moyen d'épanouissement individuel et collectif. Il a bien raison. Mais là où j'ai une suggestion extrêmement constructive à lui faire ce matin, au premier ministre et au ministre de l'Éducation, notre ex-collègue Bernard Drinville, lorsqu'il affirme que les jeunes, il l'a dit hier, le premier ministre, « Je veux que tous les jeunes Québécois aillent au bout de leur potentiel. » Un exemple très concret, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation, dès maintenant, adopter une directive pour empêcher l'exclusion des enfants HDA dans nos écoles primaires et secondaires du Québec. Notre réseau public actuellement stigmatise les jeunes qui sont autistes, Asperger, maintenant il faut dire HDA. Il y a eu une augmentation de 156% de nos jeunes entre 2010 et 2020 dans nos écoles au Québec. Et malheureusement, ces enfants-là sont condamnés soit au décrochage, soit à une vie dont ils n'ont jamais rêvé. En fait, on fait exactement le contraire de leur permettre de réaliser leur plein potentiel. Alors, suggestion très constructive ce matin. En énergie, Luc, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le discours du premier ministre. Tu parles des 100 TWh, on a réagi de façon très, très différente. Il a dit, on va tenir un débat sur la question pour savoir comment on va produire ces 100 TWh. Je salue à cette engagement.
Ouais, mais en même temps, il ramène l'idée des barrages qui avait un peu écarté.
Oui.
Là.
Ouais. Oui, non, mais c'est sûr qu'il met une pression additionnelle sur les barrages. Et là, ce qui est intéressant, et d'où l'importance du débat public, est-ce qu'on a d'autres alternatives aux barrages? Et là, je mets une autre suggestion sur la table. Et là, je prends un engagement ce matin. Si le premier ministre du Québec, François Legault, arrive à conclure un partenariat avec son vis-à-vis de Terre-Neuve pour ce qui est de la suite de Churchill Falls. Mmh. Si, par exemple, on pouvait imaginer une collaboration Québec-Terre-Neuve sur Gull Islands pour relancer les grands projets hydroélectriques, parce que les deux provinces ont un intérêt commun, vendre de l'électricité, de l'hydroélectricité sur le marché de la côte est américaine. Je vous le dis, je prends ma carte de membre de la CAQ.
Oh, ben, tabarouette!
Je vous le dis.
Oh, ouais,
oui,
atteint,
monsieur.
Toi.
Non. Ouh. Oui, ouais, non, mais... je vous le dis parce que Terre-Neuve et Québec se sont chicanés depuis la conclusion de l'accord sur Churchill Falls. Faut dire qu'on s'approvisionne au Québec grâce à l'hydroélectricité de Terre-Neuve. Terre-Neuve nous a reproché pendant des années de ne pas avoir payé cette énergie suffisamment à son juste prix. Là, peut-on mettre les chicanes de côté et conclure un nouveau partenariat avec eux?
Mais pendant la campagne électorale, j'avais fait dire à François Legault, effectivement, que il y avait une stratégie de négociation. Parce que là, l'entente Churchill Falls finit en 2041.
Ouais.
Puis là, t'as Gull Island, puis t'as Muskrat Falls aussi, qui sont deux projets du gouvernement de Terre-Neuve. Ils cherchent du financement pour faire ça. Puis eux autres, voilà. c'est pas pour eux autres. Il y a personne à Terre-Neuve, là. Ils ont pas besoin de ça pour le... Alors, est-ce qu'on pourrait pas dire, OK, vous êtes pas content de l'entente, par exemple, avec Churchill Falls. Puis on peut-tu maintenant considérer ça, puis prendre une participation, par exemple, dans ces deux barrages-là qui pourraient justement servir à exporter de l'électricité.
Comme s'ils sont tellement fait avoir avec Churchill Falls, ils vont y aller avec beaucoup de précautions. Moi, Nathalie, je salue ton ouverture à la CAQ.
j'ai hâte de voir ça.
Mais bon.
Je
dois avouer que j'ai aimé l'intelligence du rédacteur du discours. Quand il a parlé des barrages, il a entériné, il a essayé d'approprier le discours aussi plus intelligent là, sur la production d'énergie en règle générale. Il a parlé d'économie d'énergie, d'optimisation d'utilisation de l'énergie. Il n'a pas juste parlé de barrages, mais il a introduit les barrages aussi. Donc, c'est un discours qui était bien écrit, mais on le sait ce qu'il veut faire dans la vie. Fait que bon. En matière de prospérité, là, s'il y avait une affaire que la CAQ pouvait comprendre, deux affaires que la CAQ pouvait comprendre, parce que son objectif, je veux enrichir les Québécois. Là. Puis, OK, donc j'ai dit que le rédacteur est intelligent. J'aimerais ça qu'il nous écoute. Va voir les statistiques de 2021 sur la richesse comparée du Québec puis de l'Ontario, OK? Consulte-les, là, prends le temps, là. L'Ontario a 5 000 de revenus médians de plus que le Québec. 10 000 si on calcule la moyenne pour certaines catégories, mais 5 000 revenus médians. Bon. De ce 5 000 $-là, ils sont incapables d'en garder un sou pour la retraite. Alors qu'au Québec, on a 5 000 de revenus de moins, mais à la retraite, on fait des épargnes de 7 %. Avant, on faisait des épargnes de 20 %, 18 %. Maintenant, on fait beaucoup d'épargnes, moins d'épargnes qu'en 1980 parce que les choses coûtent plus cher, les maisons coûtent plus cher. Mais on est encore capable de faire des épargnes de 7 %. Est-ce que vous comprenez bien, là? Avec moins d'argent, on fait plus d'épargnes. Pourquoi? Parce que le coût de la vie est trop élevé en Ontario. Et c'est quoi la base du coût de la vie en Ontario qui fait que c'est trop élevé? Le logement. Si vous agissez pas sur le logement, vous n'agissez pas sur la richesse des Québécois.
Oui, Nathalie, le mot de la fin, oui, Nathalie, sur ce sujet.
C'est un très bon point sur le logement. Pour ce qui est de la réduction des écarts de richesse, le premier ministre pourrait, son gouvernement pourrait poser un geste dès maintenant, entre autres pour les personnes âgées. Il y a une différence de 9 000 $ entre un aîné qui vit en Ontario et un aîné de plus de 65 ans qui vit au Québec. Ça serait concret. Luc, tu t'interroges sur le fait qu'on épargne moins au Québec, mais il faut rappeler que les Québécois sont encore les plus taxés en Amérique du Nord.
Oui, et ça, mais on épargne plus qu'en Ontario, par exemple, qui sont moins taxés que nous. Parce que le logement leur coûte plus cher.
Oui. Et puis, un dernier commentaire. Immigration, le premier, c'était plus précis sur l'immigration. Il y a quand même des questions qui demeurent sur l'immigration francophone. On en parlera dans quelques instants. Et le premier s'est fait le porte-voix des Québécois pour ce qui est du chemin Roxham. Il a affiché hier son impatience face à des migrants qui entrent à pleine porte. Et il aurait pu parler de la crise humanitaire que provoque l'entrée de tous ces migrants, entre autres à Montréal. Ce qu'il n'a pas fait, mais peut-être qu'il aura l'occasion d'y revenir, assurément.
D'accord. On s'en va à la pause et tout de suite après, on va justement parler d'immigration. Est-ce que le 100% d'immigrants francophones d'ici 2026, d'abord, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est une bonne idée aussi?
La commission Normando-Ferrandaise.
Eh bien, l'autre grande partie hier du discours de François Legault touchait à l'immigration. Et donc, il veut qu'à terme, en 2026, on accueille 100% d'immigrants francophones au Québec. Est-ce que c'est réaliste, Nathalie?
Bien, on comprend l'objectif qui est celui de freiner le déclin du français, particulièrement à Montréal. Mais personnellement, je doute que faire porter toute la pression sur les épaules des immigrants soit l'unique solution. Par exemple, on pourrait, nous, s'interroger sur notre propre responsabilité. Lorsque je dis « nous », là, je dis les Québécois de souche, entre guillemets, là, vous comprenez ce que je veux dire. Notre français parlé, notre français écrit, là, parfois, faut le reconnaître, c'est assez pathétique. L'autre chose, je pense qu'il faudrait sensibiliser les jeunes, la plus jeune génération, aux enjeux liés à l'avenir du français. Eux, là, ils gravitent dans un univers là, qui n'a pas été le nôtre, c'est-à-dire français, anglais, parfois, ils maîtrisent une troisième langue. Ils sont extrêmement ouverts sur le monde. Moi, j'ai rien contre ça. Au contraire, j'encourage nos jeunes à devenir bilingues au Québec. Mmh. Mais je pense qu'ils ne sont pas suffisamment conscients des enjeux entourant le déclin du français, l'importance de sa préservation, le lien entre langue, culture, identité. Autre enjeu également qui nous interpelle, c'est la langue au bureau. Combien de témoignages d'auditeurs, Luc, tu as certainement des auditeurs qui t'écrivent pour te le confirmer, de l'anglais qui prime au bureau, au travail. Il suffit qu'il y ait un quart dans l'organisation qui parle anglais, juste un sur, mettons, 8-10 pour que tout le monde se mette à parler en anglais dans les réunions. C'est encore comme ça aujourd'hui en 2022 dans plusieurs milieux de travail au Québec.
Tu veux dire comme à Air Canada, genre?
Comme à Air Canada, genre. Également, un autre point qu'il faudrait corriger, puis là, je vous parle pas, là, de, il s'agit pas d'immigration, là. La discrimination à l'emploi du fait qu'au Québec, on n'est pas bilingue. Combien de gens actuellement qui parlent français, même des personnes issues de l'immigration qui ont parfait français, mais qui maîtrisent pas suffisamment l'anglais, sont discriminés à l'emploi, n'ont pas leur emploi parce qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais, par exemple. Alors, je pense que l'immigration francophone, selon moi, c'est pas réaliste d'atteindre 100% pour 2026, j'y reviendrai, mais avant de faire porter tout le poids sur les immigrants, je pense qu'on a du travail à faire de notre côté.
Moi, je dirais que c'est une déclaration spontanée, le genre d'affaire que tu dis dans un repas des fêtes, tu sais. Hey, la gang, on va tout au Mexique.
Avec beaucoup de vin.
Ben oui, c'est
avec
ça.
Avec beaucoup
oui,
de vin.
Oui, c'est ça. Vers la fin du repas. On va tout au Mexique pendant la semaine de relâche, tu sais. Ben, OK, c'est ça, mais c'est pas une.
Là, tu dégrises le lendemain, tu dis, ah, Marneau,
ça va coûter cher. Ouais.
Premièrement, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de semaine de relâche. Deuxièmement, on n'a pas d'argent. Je pense que c'est un peu ça. Moi, j'ai plusieurs éléments. Premièrement, il n'est pas sans savoir que la filière immigration passe de plus en plus par la filière des employés temporaires. Hein? C'est qu'on a 30 000 employés temporaires qui rentrent par année. Et on a des étudiants internationaux qui rentrent aussi. Puis là, une partie de ces personnes-là vont avoir une expérience canadienne ou québécoise qui va leur permettre d'avoir ils vont pouvoir formuler des demandes d'immigration. Alors ça, les employés temporaires ne sont pas qualifiés avec leur langue, sont qualifiés avec leurs compétences. Donc, l'industrie des jeux vidéo, par exemple, va aller chercher un spécialiste des interfaces 3D, c'est pas qualifié. Fait que l'entrée pour une partie de notre immigration n'est pas filtrée selon le critère de la langue. Donc, ça peut pas fonctionner. La deuxième chose, Fitzgibbon l'a contredit dans la minute. Il a pas attendu 10 minutes. Non, ça marchera pas, là. Moi, je vais faire des filières batterie ici. C'est les Sud-Coréens qui maîtrisent la filière. On va les faire venir. On leur demandera pas d'apprendre le français. Mais pensez-vous qu'il y a juste les filières batterie ou ce sont des spécialistes qui parlent l'anglais? Si un grand hôpital anglophone veut recevoir un super chirurgien.
Ou un chercheur, par exemple.
Ou un chercheur, voyons donc. Dans toutes les filières, il va y avoir ce genre de situation-là. C'était irréaliste de prétendre que ça sera pas le cas. L'autre affaire, même la filière éducation, une partie de notre immigration, ce sont des étudiants qui sont venus travailler dans étudier dans une université, puis qui restent par la suite. Et c'est excellent parce que ce sont des gens qui connaissent le pays, qui se sont intégrés, se sont peut-être mariés, ils font peut-être du ski, ils ont commencé une intégration. C'est excellent, c'est fantastique. 50% des étudiants de l'Université McGill sont des étrangers. Donc, en partant, Tu peux pas dire on va fermer l'Université McGill. Tu peux pas dire ça. On va pas dire on va fermer 50% de l'éducation de l'Université McGill. Alors, si on aurait voulu un peu plus de réflexion approfondie. Un autre élément de réflexion approfondie, c'est que le solde migratoire entre les provinces a changé. Avant, tu avais un solde migratoire constamment défavorable au Québec.
tu avais 10 000 Québécois qui partaient vers le reste du Canada à chaque année. Ce n'est plus le cas, c'est même le contraire. Notamment à cause du logement. Les gens quittent l'Ontario. Ils vont pas juste au Québec, ils vont dans les provinces maritimes, au Québec surtout. Et ça, le solde migratoire va faire que la place de l'anglais va continuer d'augmenter. Fait, c'est bien plus complexe que de dire on va-tu au Mexique à la semaine de relâche.
Ouais. Ouais, puis l'autre chose, est-ce qu'il va utiliser une loi pour modifier sa façon de faire? Je pose la question parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il veut s'attaquer à l'immigration économique. En fait, parce qu'il était plus précis hier, le premier ministre, en parlant d'immigration économique, qu'il veut 100% francophone. Lorsque tu regardes les résultats en matière d'immigration, l'immigration économique, là, c'est beaucoup. En fait, la grande majorité, c'est des travailleurs qualifiés. Mais les travailleurs qualifiés, ils viennent d'où? Ils viennent du Guatemala, ils viennent du Mexique. Là, ce que ça veut dire qu'en 2026, tous les producteurs agricoles, par exemple, qui comptent sur cette main-d'œuvre étrangère, vont devoir embaucher des francophones pour travailler dans les champs ou des immigrants qui viennent de certains pays francophones. Il y a énormément de questions sans réponse et les exclusions auxquelles a appelé Pierre Fitzgibbon hier risquent de, en fait, ça démontre à quel point le portrait est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que le premier ministre, il y a une manœuvre sur le plan politique là, qui est en étude de positionnement. Depuis l'adoption de la loi 101 il y a 45 ans, le premier ministre du Québec, François Legault, se positionne pour devenir le premier ministre qui en aura fait le plus pour protéger la langue française, pour freiner le déclin dont il se préoccupe, dont il en a fait une obsession. On peut pas le blâmer là-dessus, mais en même temps, les moyens pour y arriver sont peut-être pas les moyens les plus adéquats, optimum, mais les plus efficaces, selon moi.
Deux éléments que je pourrais ajouter peut-être sur la complexité du dossier d'immigration. Premièrement, il y a la question de l'urbanisme. C'est que Montréal se vide de ses familles. C'est à Montréal le problème du déséquilibre entre le français et l'anglais. On est passé de 52% de francophones qui sont nés francophones à 48%. Donc, il y a 52% des gens qui sont ici qui sont pas nés francophones. Et là, la question, c'est de leur intégration. Mais si les Montréalais francophones, nés de famille francophone, quittent Montréal au rythme où ils le font actuellement, on n'arrivera jamais à combler l'écart.
Ouais, ouais. Puis Luc, tu parles d'intégration, c'est tellement pertinent parce que fait le Québec pour créer des conditions optimales pour favoriser l'intégration de nos immigrants? L'intégration, ça passe par la maîtrise du français. Un immigrant, c'est quoi ça? Il reçoit à peu près 182 $ autour d'eux, là, par semaine pour apprendre le français. On a mis au rencard les programmes de francisation en milieu de travail. Excusez-moi, là. T'sais, si tu fais pas un minimum d'efforts pour faciliter l'apprentissage du français pour les immigrants, tu peux pas dire après que c'est de leur faute si le français est en déclin à Montréal. Je trouve que c'est limite malhonnête que de faire ce genre de lien et d'amalgame.
Messieurs, dames, merci encore une fois pour cette analyse fine. Puis on va conclure ça demain.
Merci beaucoup, à demain.
Salut.
Merci, bonne journée à vous deux.
C'est 23.